Chapitre 5. Or, 6 ans s'étaient écoulés depuis les événements que nous venons de raconter. Le comte de Foix, après avoir fait comme d'habitude sa prière en son retrait, venait de descendre en sa salle à manger où l'attendait messire Yvain, qui était devenu un grand et beau chevalier, messire Hernagnon d'Espagne et messire Jehan Froissart, le chroniqueur, que le chevalier Esper de Lyon avait rencontré à Carcassonne et avait amené en sa compagnie jusqu'au château d'Orthès, où il avait été merveilleusement reçu par le comte de Foix. On venait de se mettre à table lorsqu'un varlet entra dans la salle et, se tenant près de la porte, attendit que son maître lui adressât la parole, quoiqu'on vît que, bien évidemment, il avait une nouvelle à annoncer. Au bout de quelques instants qu'il fut là, le comte l'aperçut. « Ah, fit-il, c'est toi, Raymonnet. Eh bien, quelle nouvelle? Tu viens de loin, ce me semble. » « Du bois de Sauveterre, sur le chemin de Pamplune en Navarre, monseigneur. » « Quelle nouvelle en apportes-tu ? » « On a vu la laie, monseigneur. » « Ah ! » dit le comte en se retournant vivement, « et crois-tu qu'elle y soit restée ?»« Oui, je le crois, monseigneur, car elle y était depuis 5 jours, et si elle y reste 5 jours encore, vous aurez le temps d'y aller, de la joindre et de la pourchasser à loisir. » « Oui, certes, j'irai, dit le comte, et nous verrons cette fois si elle m'échappera encore. » « Qu'est-ce que cette laie ?» dit Froissart. « Ah, messire Claire, lui répondit le comte de Foix, vous qui prenez grand plaisir aux aventures de guerre, d'amour et de chasse, peut-être trouverez-vous en celle-ci quelques chapitres merveilleux à ajouter à votre chronique. Pour le présent, tout ce que je puis vous dire, c'est que je commence à croire que cette laie est enchantée. » On la voit du jour au lendemain sur les points les plus opposés de mes comtés de Foix et de Béarn, et on a beau la pourchasser à outrance, jamais nul n'a pu la joindre. Au moment où l'on croit l'atteindre, elle disparaît, comme si la terre manquait sous elle. Quelques-uns disent même l'avoir vue disparaître en fumée, et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que tous ceux qui l'ont vue et poursuivie sont morts de mal mort dans le courant de l'année. « Vraiment ?» s'écria Froissart, dont les yeux étincelaient de plaisir à l'idée d'une histoire de nécromancie. « L'avez-vous vu, monseigneur ?»« Oui, certes, il y aura de cela demain 1 an. C'était en la forêt de Carcassonne. Mais je ne fus pas plus heureux que les autres. Je l'ai chassée toute une journée sans avoir pu la joindre. Le soir arriva et je la perdis. »« Et comment est-elle ? » dit Froissart. « Oh, pour cela, c'est la truie la plus maigre que j'ai vue de ma vie, tant qu'elle n'a que la peau sur les os, et avec cela le poil hérissé et de grandes têtes pendantes. Bref, j'ai bien chassé bêtes sauvages et carnassières depuis l'âge de 15 ans jusqu'à celui de 59 où je suis arrivé, mais je n'ai jamais vu animal qui puisse lui être comparé. » « Ah, croyez-moi, monseigneur et père, dit Yvain en secouant la tête, n'y allez pas. Et pourquoi cela, beau fils ? Rappelez-vous ce qui est arrivé à monseigneur Pierre de Béarn, mon oncle, pour avoir chassé et mis à mort un ours. » « Et que lui est-il arrivé ? Dit Froissart, toujours à l'affût de nouvelles. « Ah, folie que tous ces récits !» interrompit Gaston Phébus d'un accent dans lequel perçait cependant quelque inquiétude. Il lui est arrivé, continua Yvain, laissant un intervalle de silence entre les paroles de son père et les siennes, et cela est chose sûre, monseigneur, car elle m'a été racontée à moi-même en Espagne, après la bataille d'Aljubarrota par la comtesse Florence de Biscay, sa femme, laquelle était nièce de Don Pierre le Cruel. Il lui est arrivé qu'un jour, un de ses piqueurs est venu lui dire, « Comme cet homme vient de le faire pour nous, qu'il y avait dans une forêt des Pyrénées un ours merveilleusement grand, et qui, près d'être forcé, s'était retourné et avait parlé aux chasseurs, ce dont tout le pays avait eu si grand effroi que nul n'osait plus le relancer ni le poursuivre. Alors Pierre, qui était, comme monseigneur, trop aventureux de sa personne, attendu qu'il était du même sang paternel, dit « Ah, si personne ne le chasse, je le chasserai, moi !» Et telle chose qu'on pût dire, il ne se départit point de sa résolution. Ah donc, il partit avec sa meute et ses piqueurs et chevaucha tant qu'il arriva dans la forêt désignée, et qu'à peine y fut-il entré, il y trouva l'ours. Aussitôt, les piqueurs découplèrent les chiens et la chasse commença. Mais l'ours se lassa bientôt de faire cette course. Il s'accula contre un arbre et là joua si merveilleusement des pattes qu'en moins d'un instant il étouffa et blessa le tiers de la meute, ce dont mon bel oncle entra dans une grande colère, et tirant une épée de Bordeaux qu'il portait ordinairement en bataille, car elle était de si fin acier qu'elle ouvrait les cuirasses les plus fortes, il s'en vint à l'ours et l'attaqua corps à corps comme il l'eût fait d'un brigand. La lutte fut longue, car il avait recommandé à ses gens sur leur âme que pas un d'entre eux ne vint à son aide, à moins qu'ils ne le vissent renverser sur le dos comme un lutteur vaincu et au moment d'être occis par son terrible adversaire. Mais il fit tant et si bien que ce fut lui qui renversa et occit l'ours, de sorte qu'il s'en revint triomphant à son château, ramenant en triomphe l'animal mort qu'il faisait porter devant lui. Or il advint qu'à la première couchée, et comme les varlets et les chambellans du comte dormaient dans la chambre et dans l'antichambre, ils le virent tout à coup se lever au milieu de la nuit, et quoiqu'il eût les yeux fermés, aller droit à son épée, qui était sur son fauteuil, puis, l'attirant du fourreau, marcher contre une figure qui était peinte en la tapisserie, et la poignarder avec fureur comme il l'eût fait à un sarrasin d'Espagne ou un mort d'Égypte. Et cependant, tous les chambellans et les varlets étaient tout tremblants, craignant que cette fureur ne se tournât contre eux, mais pour cette nuit, ils en furent quittes ainsi. Lorsqu'il eut poignardé sa tapisserie, messire Pierre de Béarn remit son épée au fourreau et s'en retourna de vers son lit où il se coucha et dormit le reste de la nuit comme si rien n'était arrivé. Le lendemain, les serviteurs du comte, qui lui étaient fort attachés, ne sonnèrent mot de ce qui s'était passé, espérant que l'événement qui venait d'arriver n'était rien d'autre qu'un rêve ou vapeur causé par l'agitation qu'avait causé à messire Pierre de Béarn son combat avec l'ours. Mais la nuit suivante, ce fut bien pis. Comme on était arrivé à une autre couchée et que cette fois il n'y avait pas de tapisserie à figure dans la chambre, messire Pierre s'en prit à son chambellan, et il s'en allait l'occire malgré ses cris et ses prières, lorsque deux écuyers vinrent à son aide et, s'emparant du dormeur, le désarmèrent et le portèrent dans son lit, où ils le maintèrent de force et malgré lui une partie de la nuit, et pendant tout ce temps il parlait et agissait les yeux fermés. « Qu'aurait était-il bien heureux qu'il ne fût pas de votre force, messire Hernanton ?» interrompit Gaston Phoebus en se retournant vers le chevalier qui portait ce nom. « Car il faut que je vous conte mon histoire aussi, messire Jean-François. »« Pardon, Yvain, tu reprendras la tienne après. »« Faites, monseigneur. » »« Je vous dirai donc qu'un jour de Noël, comme je tenais grande fête et assemblée nombreuse de chevaliers, en ce même château où nous sommes, il arriva qu'en sortant de dîner, nous montâmes sur la galerie, dont l'escalier est large, et où l'on arrive, comme vous avez pu le voir, par 25 marches. Or, dans cette galerie, il y avait une cheminée, où l'on fait du feu quand je suis au château, mais jamais autrement. Donc ce jour, par hasard, quoique le Béarn soit un pays de bois, se trouvait la cheminée petitement chauffée, et m'en plaignit tout haut devant mes écuyers et pages, car il faisait grand froid. Par hasard, en ce moment, messire Hernanton regardait par une fenêtre une quantité d'ânes chargées de bûches. « Ah !» dit-il, « monseigneur, vous manquez de bois, eh bien, attendez un instant, et vous allez en avoir. » Alors il descendit, et nous nous tournâmes vers la porte, car nous le savions, jovial et bon compagnon. Et nous nous attendions qu'il allait faire quelques jongleries à sa manière. En effet, au bout d'un instant, nous le vîmes portant un âne tout chargé sur ses épaules. « Tenez, monseigneur, dit-il, voilà la chose que vous avez demandée. Seulement, comme le bois était attaché sur l'âne, j'ai pris l'âne pour ne pas vous faire attendre. » Il ne faut pas demander si nous rîmes grandement et si nous nous émerveillâmes de sa force, et comment tout seul il avait chargé d'un si lourd fardeau monté 25 degrés. J'avais donc raison de dire, vous en conviendrez, messire Jehan, qu'il fut bien heureux que les chambellans et varlets eussent affaire à mon frère Pierre de Béarn, et non à messire Hernanton d'Espagne. Monseigneur, répondit Froissart, puisque c'est vous qui me racontez ce fait, c'est la vérité, et je le consignerai dans mes chroniques, quoiqu'il soit étrange et incroyable. Mais à cette heure, ne pourrions-nous pas revenir à l'aventure de Pierre de Béarn et de son ours, dont je ne suis pas moins curieux ? Ah, suffit, messire, et volontiers. Va donc, Yvain, je te donne congé de continuer. Donc, puisque vous le permettez, monseigneur et père, je vous dirai que le lendemain, messire Pierre rentra dans son château où l'attendait madame Florence de Biscaye, sa femme. Mais dès qu'elle vit l'ours, elle s'évanouit et perdit voix, car elle le reconnut pour être celui que son père avait chassé un jour dans le même bois où son mari avait tué celui-ci. Or, se trouvant pressé par le comte de Biscaye qui le poursuivait seul, toute la chasse ayant tiré d'un autre côté, l'ours se retourna, et prenant une voix humaine, il lui dit « Tu me chasses, mais mal t'en arrivera, et tu mourras de mauvaise mort. » En effet, un an jour pour jour après cette menace, le comte de Biscaye étant tombé en la disgrâce de Pierre le Cruel, celui-ci le fit décoller, et cela sans cause apparente, et comme pour accomplir seulement la prédiction de l'ours maudit. Or, la comtesse raconta la chose à son mari, qui en rit d'abord et voulut faire clouer à sa porte la tête et les pattes de l'ours. Mais lorsque les chambellans et les varlets eurent raconté à leur tour ce qui s'était passé pendant les deux dernières nuits, et comment messire Pierre de Béarn avait été tourmenté par des rêves et visions, il commença à tenir moins ferme et permit que l'on enterra les pattes et la tête de l'ours au lieu de les clouer à sa porte, ce qui fut fait dans la journée. Le soir, messire Pierre de Béarn ordonna à ses chevaliers d'emporter son épée avec eux et de ne laisser aucune arme dans sa chambre. Mais il n'en eut pas meilleure chance. La nuit, ses chambellans furent éveillés par de grands cris. Messire Pierre de Béarn étouffait la comtesse dans ses bras, et ce ne fut qu'à grand-peine qu'ils la lui retirèrent. Le lendemain, elle partit, comme si elle allait en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, emmenant Pierre, son fils, et Adrienne, sa fille. Mais au lieu de se rendre où elle l'avait dit, elle s'achemina vers le roi de Castille pour lui demander asile et protection, et ne revint plus ni en Biscaye ni en Béarn. Quant à messire Pierre, ses visions continuèrent ainsi chaque nuit, sans qu'il se souvînt jamais au matin de ce qui s'était passé pendant son sommeil. On voulut continuer à lui retirer son épée, mais alors c'était bien pis encore, car n'ayant plus rien avec quoi frapper, et croyant sans doute dans son rêve avoir besoin d'une arme pour se défendre, il faisait un tel sabbat que l'on eût cru que tous les diables de l'enfer étaient avec lui. Il y avait déjà un an que les choses duraient ainsi, lorsque messire Pierre, qui ne pouvait plus trouver ni chambellan ni varlet pour rester à son service, envoya quérir au couvent des frères mineurs à Pamplune un moine très renommé sur le fait des possessions et qui avait fait en exorcisme des choses tout à fait miraculeuses. Il se nommait frère Jean. Frère Jean se rendit à la requête de messire Pierre et vint au château. Là, il se fit raconter de point en point la chose et comment elle s'était passée, tant autrefois pour le comte de Biscaye que pour messire Pierre de Béarn. Puis il demanda ce qu'on avait fait de l'ours, et il lui fut répondu qu'on en avait abandonné le corps au chien pour en faire curer, et quant à la tête et aux pattes, messire Pierre les avait rapportées triomphalement pour les faire clouer à sa porte, mais que sur les instances de sa femme il avait fini par les laisser enterrer au pied d'un arbre de la forêt. Frère Jean parut satisfait de ces explications et ordonna à messire Pierre de se mettre en neuvaine. Et en effet, messire Pierre, pendant 9 jours, pria, jeûna, comme s'il était en carême, ne buvant que de l'eau, ne mangeant que du pain, et disant chaque jour 5 paters et 5 aves pour le soulagement des âmes du purgatoire. Et frère Jean jeûna et pria tout ce temps avec lui, se mortifiant comme si c'était lui qui avait commis la faute. Enfin, la pénitence terminée, on fit venir l'homme qui avait enterré la tête et les pattes de l'ours, et on lui demanda s'il se rappelait bien la place où il avait fait l'inhumation. Il répondit que oui, certainement. Alors on commanda tout ce qu'il y avait de prêtres et de chapelains au château et dans les environs, puis lorsque le cortège fut prêt, on se mit en marche, guidé par le paysan. Derrière lui venait messire Pierre en chemise, pieds nus et portant un cierge à la main. Arrivé à l'endroit désigné, on répéta en chœur les litanies des saints et les prières de la délivrance, puis les prières finies, messire Jean ordonna aux paysans de creuser la terre, et à la place où il avait mis la tête et les pattes de l'ours, il retrouva la tête, les mains et les pieds d'un homme. Or, il n'y avait pas à s'y tromper, car pendant le combat, messire Pierre avait presque ouvert la tête de son adversaire d'un grand coup d'épée, et l'on retrouva la même blessure sur le crâne. « Vous voyez bien, monseigneur et père, continua Yvain, que mieux serait, je crois, de laisser là cette laie enchantée et de profiter de l'exemple de votre frère, messire Pierre de Béarn. » Que pensez-vous de cette histoire, notre hôte ? Dit le comte de Foix à Froissart. Gentil comte, répondit Froissart, j'y crois sincèrement, et j'en ai entendu raconter, et plus d'une, qui avait ressemblance avec elle. Nous trouvons en l'Écriture qu'anciennement les dieux et déesses changeaient à leur plaisir et selon leur volonté les hommes en bêtes et en oiseaux, et ainsi faisaient des femmes. Il n'est point, monseigneur, que vous, qui êtes savant, plus que clair qui soit au monde, n'ayez entendu parler de l'histoire du chevalier Actéon. Non pas, doux maître, répondit Gaston Phébus, comptez-moi le comte, je vous prie. Volontiers, reprit Froissart, et ainsi ferai-je à l'instant, monseigneur, puisque tel est votre bon plaisir. Or, selon les anciennes écritures, nous trouvons écrit que le seigneur Actéon était un noble, brave et gentil chevalier de Grèce qui, comme vous, monseigneur, aimait avant tout le plaisir de la chasse. Donc, il advint qu'une fois qu'il chassait dans les bois de la Thessalie, il se leva devant ses chiens un cerf merveilleusement grand et beau qu'il chassa tout le jour. Piqueurs, écuyers et chiens l'avaient perdu et lui seul suivait encore la trace lorsqu'il arriva à une clairière tout enclose de bois et environnée de grands arbres. Dans cette clairière, le chevalier Actéon, ayant entendu des cris et des voix de femmes, descendit de son cheval et entr'ouvrit doucement les buissons. Il aperçut alors une grande fontaine dans laquelle se baignait, à la vêprée, une dame merveilleusement belle et entourée de ses servantes. Or, cette dame était Diane, la déesse de la chasteté, et ses femmes qui s'ébattaient alentour de leur reine, les nymphes et les naïades, habitantes de la forêt où chassait le gentil chevalier. Bien vous pensez, monseigneur, qu'Actéon, à cette vue, ne s'en retourna point en arrière. Il fut tout à coup aperçu de la déesse Diane qui, aussitôt, poussa un cri. À ce cri, toutes les nymphes et naïades se retournèrent et, voyant un homme qui les regardait ainsi, se pressèrent, vergogneuses et rougissantes, tout autour de leur maîtresse, cachant les beautés d'une seule avec toute leur beauté. Alors, au milieu de ce gentil groupe, la déesse Diane éleva la tête et la voix, disant « Actéon, celui qui t'a envoyé ici ne t'aime guère, car, attendu que je ne veux pas que la bouche d'un homme se puisse se vanter de m'avoir vu ainsi, moi et mes femmes, je veux qu'à l'instant tu prennes la forme du cerf que tu as chassé aujourd'hui. » Et aussitôt Actéon fut changé en l'animal qu'avait dit la déesse Diane et se mit à courir par les bois, où ses chiens, qui avaient perdu la chasse de l'autre cerf, le retrouvèrent et depuis le chassent jour et nuit sans qu'ils parviennent à le joindre, ni que lui se puisse délivrer de leur poursuite. Or, monseigneur, sans doute l'animal que tu as, messire Pierre de Béarn, était quelque chevalier qui, ayant courroucé, comme l'avait fait Actéon, un dieu ou une déesse de son pays, avait été changé en ours, et accomplissait sa pénitence lorsqu'il fut tué. Voilà pourquoi, le temps de sa pénitence étant fini, ou les prières du frère Jean ayant obtenu sa délivrance, on trouva la tête, les mains et les pieds d'un homme, au lieu de la tête et des pattes d'un ours. « Ah, messire, répondit le comte, votre explication est bonne et valable, mais, avec votre permission et celle divine, cela ne nous empêchera pas de chasser demain la laie, si Dieu nous donne vie d'ici là. Ah, donc, nous partirons demain, par ainsi que chacun se tienne prêt pour l'heure de l'Angélus. »